Mille et une nuits, histoire de Sinbad le marin, deuxième cassette, première face. Cette histoire sera suivie de l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Septième et dernier voyage de Sinbad le marin. Cette ambassade fut aussi l'occasion de mon septième et dernier voyage. Haroun al-Rachid, calife de Bagdad, le commandeur des croyants, me chargea en effet d'aller de sa part à l'île de Serendib pour remettre au roi un message et des présents. Je me préparai en peu de jours à mon départ et je pris la route de Bassora où je m'embarquai. Ma navigation fut très heureuse et j'arrivai à l'île de Serendib. Le roi me reconnut tout de suite et me témoigna une joie toute particulière de me revoir. « Ah, Sinbad, me dit-il, soyez le bienvenu. Je vous jure que j'ai songé à vous très souvent depuis votre départ. Je bénis ce jour puisque nous nous voyons encore une fois. » Je lui fis mon compliment, et après l'avoir remercié de la bonté qu'il avait pour moi, je lui présentai la lettre et le présent du calife, qu'il reçut avec toutes les marques d'une grande satisfaction. Le calife lui envoyait un lit complet de drap d'or, estimé 1000 sequins, 50 robes d'une très riche étoffe, 100 autres de toile blanche la plus fine du Caire, de Suez et d'Alexandrie, un autre lit cramoisi et un autre encore d'une autre façon, un vase d'agate, plus large que profond, épais d'un doigt et ouvert d'un demi-pied, dont le fond représentait en bas-relief un homme, genou en terre, qui tenait un arc avec une flèche, prêt à tirer contre un lion. Il lui envoyait enfin une riche table, que l'on croyait par tradition venir du grand Salomon. La lettre du calife était conçue en ces termes. Salut au nom du souverain guide du droit chemin, au puissant et heureux sultan, de la part d'Abdallah Haroun al-Rachid, que Dieu a placé dans le lieu d'honneur, après ses ancêtres d'heureuse mémoire. Nous avons reçu votre lettre avec joie et nous vous envoyons celle-ci, émanée du conseil de notre porte, le jardin des esprits supérieurs. Nous espérons qu'en jetant les yeux dessus, vous connaîtrez notre bonne intention et que vous l'aurez pour agréable. Adieu. Le roi de Serendib eut un grand plaisir de voir que le calife répondait à l'amitié qu'il lui avait témoignée. Peu de temps après avoir été reçu par le roi, je demandai la permission de partir, que j'eus beaucoup de peine à obtenir. Le roi, en me disant adieu, me fit un présent très considérable. Je me rembarquai aussitôt afin de m'en retourner à Bagdad. Mais je n'eus pas le bonheur d'y arriver comme je l'espérais, et Dieu en disposa autrement. En effet, des corsaires attaquèrent notre bateau et nous firent prisonniers. Je fus vendu à un riche marchand qui m'employa à la chasse des éléphants. Il me conduisit dans une forêt immense. Ensuite, me montrant un grand arbre, il me dit « Montez sur cet arbre et tirez avec cet arc et ses flèches sur les éléphants que vous verrez passer, car il y en a une quantité prodigieuse dans cette forêt. S'il en tombe quelques-uns, venez m'en donner avis. » Après m'avoir dit cela, il me laissa des vivres, reprit le chemin de la ville, et je demeurai sur l'arbre à guetter pendant toute la nuit. Je n'aperçus aucun éléphant pendant tout ce temps-là. Mais le lendemain, dès que le soleil fut levé, j'en vis paraître un grand nombre. Je tirai dessus plusieurs flèches, et enfin il en tomba un par terre. Les autres se retirèrent aussitôt et me laissèrent la liberté d'aller avertir mon patron de la chasse que je venais de faire. Je continuai cette chasse pendant 2 mois, et il ne se passait pas de jour que je ne tuasse un éléphant. Je ne me mettais pas toujours à l'affût sur le même arbre. Je me plaçais tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Un matin que j'attendais l'arrivée des éléphants, je m'aperçus avec un extrême étonnement qu'au lieu de passer devant moi en traversant la forêt comme à l'ordinaire, ils s'arrêtèrent et vinrent à moi avec un horrible bruit et en si grand nombre que la terre en était couverte et tremblait sous leurs pas. Ils s'approchèrent de l'arbre où j'étais monté et l'environnèrent tous, la trompe étendue et les yeux attachés sur moi. Après que les éléphants m'eurent regardé quelque temps, un des plus gros entoura l'arbre par le bas avec sa trompe et fit un si puissant effort qu'il le déracina et le renversa par terre. Je tombai avec l'arbre, mais l'animal me prit avec sa trompe et me chargea sur son dos où je m'assis, plus mort que vif, avec le carquois attaché à mes épaules. Il se mit ensuite à la tête de tous les autres qui le suivaient en troupe, me porta jusqu'à un endroit et m'ayant posé à terre, il se retira avec tous ceux qui l'accompagnaient. Concevez, s'il est possible, l'état où j'étais. Je croyais plutôt rêver qu'être éveillé. Enfin, après avoir été quelque temps étendu sur la place, ne voyant plus d'éléphant, je me levai et remarquai que j'étais sur une colline assez longue et assez large, toute couverte d'ossements et de défenses d'éléphants. J'admirai l'instinct de ces animaux. Je ne doutai point que ce ne fût là leur cimetière et qu'ils ne m'y eussent apporté exprès pour me l'enseigner, afin que je cessasse de les persécuter, puisque je le faisais seulement pour avoir leur défense. Je ne m'arrêtai pas sur la colline, et après avoir marché un jour et une nuit, j'arrivai chez mon patron. Je ne rencontrai aucun éléphant sur ma route, ce qui me fit comprendre qu'il s'était éloigné plus avant dans la forêt pour me laisser la liberté d'aller sans obstacle à la colline. Mon patron fut plongé dans l'étonnement par mon aventure. Il retourna avec moi au cimetière des éléphants et put vérifier que j'avais dit vrai. Il me donna la liberté et me renvoya dans mon pays avec tout un navire chargé d'ivoire, récompense qui lui semblait trop petite pour le service que je lui avais rendu. Ce navire me conduisit dans un port des Indes. Nous nous arrêtâmes dans quelques îles pour y prendre des rafraîchissements. Notre vaisseau étant parti, je fis débarquer, pour éviter les dangers de la mer jusqu'à Bassora, je fis débarquer l'ivoire qui m'appartenait, résolu à continuer mon voyage par terre. Je tirai de mon ivoire une grosse somme d'argent, j'en achetai plusieurs choses rares pour en faire des présents, et quand mon équipage fut prêt, je me joignis à une grosse caravane de marchands. Je demeurai longtemps en chemin et je souffris beaucoup. Mais je souffrais avec patience, en faisant réflexion que je n'avais plus à craindre ni les tempêtes, ni les corsaires, ni les serpents, ni tous les autres périls que j'avais courus. Toutes ces fatigues finirent enfin. J'arrivai heureusement à Bagdad. J'allai en premier lieu me présenter au calife et lui rendre compte de mon ambassade. Quand je lui appris l'aventure des éléphants, il en parut fort surpris et il aurait refusé de me croire s'il n'avait pas su que j'étais un homme qui dit toujours la vérité. Il trouva cette histoire et les autres que je lui racontai si curieuses qu'il chargea un de ses secrétaires de les écrire en lettres d'or pour être conservées dans son trésor. Je me retirai très content de l'honneur et des présents qu'il me fit, puis je me donnai tout entier à ma famille, à mes parents et à mes amis. Ce fut ainsi que Sindbad acheva le récit de son septième et dernier voyage, s'adressant ensuite à Hindbad. « Eh bien, mon ami, ajouta-t-il, avez-vous jamais entendu dire que quelqu'un ait souffert autant que moi ou qu'aucun homme se soit trouvé dans des embarras si pressants. n'est-il pas juste qu'après tant de travaux, je jouisse d'une vie agréable et tranquille ? Comme il achevait ces mots, Hindbad s'approcha de lui et dit en lui baisant la main : Il faut avouer, Seigneur, que vous avez subi d'effroyables dangers. Mes peines ne sont pas comparables aux vôtres. Si elles m'attristent dans le temps que je les souffre, je m'en console par le petit salaire que j'en tire. Vous méritez non seulement une vie tranquille, vous êtes encore digne de tous les biens que vous possédez, puisque vous en faites un si bon usage et que vous êtes si généreux. Continuez donc de vivre dans la joie jusqu'à l'heure de votre mort. Sindbad lui fit donner 1000 sequins, le reçut au nombre de ses amis et lui dit de quitter sa profession de porteur pour habiter et prendre ses repas chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Fin des voyages de Sindbad le marin. Voici maintenant l'histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs exterminés par une esclave. Dans une ville de Perse, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Ali Baba, fort pauvre, exerçait le métier de bûcheron. Cassim, lui, avait épousé une femme riche et il était devenu un des plus riches marchands de la ville. Ali Baba était un jour dans la forêt et il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes lorsqu'il aperçut une troupe nombreuse de gens à cheval qui arrivaient à grand trot. Pris de frayeur, il monta sur un gros arbre et se cacha de façon à tout voir sans être vu. Ali Baba compta 40 cavaliers. Chacun d'eux portait une valise qui semblait fort lourde. C'étaient des voleurs qui, sans faire de mal aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous. Le capitaine des voleurs, chargé de sa valise comme les autres, s'approcha d'un rocher fort près du gros arbre où s'était réfugié Ali Baba et dit distinctement : Sésame, ouvre-toi ! Si distinctement qu'Ali Baba entendit bien les paroles qu'il prononçait. Dès que le capitaine les eut dites, une porte s'ouvrit et après qu'il eut fit passer tous ses brigands devant lui et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi et la porte se referma. Ali Baba resta longtemps caché, ne sachant pas s'il devait s'enfuir ou attendre la sortie des voleurs. Il était au comble de l'anxiété lorsque la porte se rouvrit. Lorsque les 40 voleurs furent sortis, le capitaine dit « Sésame, referme-toi !» Chacun retourna à son cheval, lui remit sa bride, rattacha sa valise et remonta dessus. Quand ce capitaine vit qu'ils étaient tous prêts à partir, il se mit à leur tête et reprit avec eux le chemin par où ils étaient venus. Ali Baba les regarda partir jusqu'à ce qu'il les ait perdus de vue. Et il ne descendit que longtemps après pour être sûr que les voleurs ne reviendraient pas. Comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la curiosité de voir si, prononcée par lui, elle ferait le même effet. Il se présenta devant la porte et dit « Sésame, ouvre-toi !» Et à l'instant, la porte s'ouvrit toute grande. Ali Baba se trouva dans une vaste salle, une grotte creusée de mains d'homme, avec une voûte fort élevée, qui recevait la lumière du haut du rocher par une ouverture. Il vit de grandes provisions, des ballots de riches marchandises en pile, des étoffes de soie et de brocart, des tapis de grand prix et surtout des pièces d'or et d'argent en tas et dans des sacs ou de grandes bourses de cuir entassées les unes sur les autres. Il entra dans la grotte et enleva rapidement assez de pièces d'or pour en charger ses trois ânes. Il couvrit cette charge avec du bois coupé, eut soin de refermer la porte de la caverne et rentra chez lui. Il déchargea le peu de bois qui couvrait les sacs et il porta dans sa maison les sacs qu'il posa devant sa femme qui était assise sur un sofa. Sa femme, ayant vu que les sacs étaient pleins d'or, ne put s'empêcher de lui dire « Ali Baba, seriez-vous assez malheureux pour... » Ali Baba l'interrompit. « Paix, ma femme, dit-il, ne vous alarmez pas. Je ne suis pas devenu voleur, à moins que ce ne soit l'être que de prendre sur des voleurs. Vous cesserez d'avoir cette mauvaise opinion de moi quand je vous aurai raconté ma bonne chance. » Il vida les sacs qui firent un gros tas d'or, et quand il eut fait, il lui fit le récit de son aventure depuis le commencement jusqu'à la fin, et en achevant, il lui recommanda de garder le secret le plus absolu. Ils voulurent cependant savoir, avant d'enterrer leur trésor pour le cacher, quelle était à peu près sa valeur. La femme d'Ali Baba se rendit donc chez son beau-frère Cassim pour emprunter une mesure. Elle trouva sa belle-sœur seule chez elle et lui présenta sa demande. « Très volontiers, dit la belle-sœur, attendez un moment, je vais vous apporter une mesure. » La belle-sœur va chercher la mesure, elle la trouve, mais comme elle connaissait la pauvreté d'Ali Baba, curieuse de savoir quelle sorte de grain sa femme voulait mesurer, elle appliqua adroitement de la colle au-dessous de la mesure. La femme d'Ali Baba revint chez elle. Elle posa la mesure sur le tas d'or, l'emplit et le vida un peu plus loin sur le sofa, jusqu'à ce qu'elle eût achevé. Et elle fut contente du bon nombre de mesures qu'elle trouva. Pendant qu'Ali Baba enterrait l'or, pour le cacher, sa femme reporte sa mesure à sa belle-sœur, mais sans prendre garde qu'une pièce d'or était restée collée au-dessous. Elle n'eut pas tourné le dos que la femme de Cassim regarda la mesure par-dessous et elle fut très étonnée d'y voir une pièce d'or attachée. La jalousie s'empara de son cœur à l'instant. « Quoi ? Dit-elle, Ali Baba a de l'or par mesure. Et où a-t-il pris cet or ? » Quand Cassim arriva chez lui, sa femme lui dit « Cassim, vous croyez être riche, mais vous vous trompez. Ali Baba, votre frère, l'est infiniment plus que vous. Il ne compte pas ses pièces d'or comme vous. Il les mesure. » Cassim demanda des explications et sa femme lui apprit de quelle astuce elle s'était servie pour faire cette découverte. Et elle lui montra la pièce de monnaie qu'elle avait trouvée attachée au-dessous de la mesure. Cette pièce était si ancienne que le nom du roi qui y était marqué lui était inconnu. Au point du jour, Cassim courut chez Ali Baba et lui demanda avec de grands reproches comment il était devenu assez riche pour avoir de l'ordre à mesurer. Ali Baba fut désolé de voir son secret découvert, mais il n'hésita pas à faire à son frère le récit de son aventure et l'instruisit pleinement de ce qu'il souhaitait et même des paroles dont il fallait se servir, aussi bien pour entrer dans la grotte que pour en sortir. Cassim résolut de s'emparer de tout le trésor. Il part le lendemain matin avec 10 mulets chargé de grands coffres, se rend à la caverne, cherche la porte, il la trouve, et pour la faire ouvrir, il prononce les paroles « Sésame, ouvre-toi ». La porte s'ouvre, il entre, et aussitôt elle se referme. En examinant la grotte, il s'étonne de voir beaucoup plus de richesses qu'il ne l'avait compris par le récit d'Ali Baba, et son admiration augmente à mesure qu'il examine chaque chose en particulier. Il prend un nombre de sacs autant qu'il peut en porter, et en venant à la porte pour la faire ouvrir, l'esprit rempli de toute autre idée que ce qui lui importait davantage, il oublie le mot nécessaire. Au lieu de « sésame », il dit « orge, ouvre-toi ». Et il est bien étonné de voir que la porte, loin de s'ouvrir, demeure fermée. Il nomme plusieurs autres noms de graines, autres que celui qu'il fallait, et la porte ne s'ouvre pas. Cassim est pris d'épouvante, et plus il fait d'efforts pour se souvenir du mot « sésame », plus il embrouille sa mémoire. Et bientôt, ce mot est pour lui absolument comme si jamais il n'en avait entendu parler. Les voleurs revinrent à leur grotte vers midi. La vue des mulets les mit en défiance. Le capitaine va droit à la porte, le sabre à la main, prononce les paroles « Sésame, ouvre-toi » et la porte s'ouvre. Cassim, qui avait entendu le bruit des chevaux, ne douta pas de l'arrivée des voleurs, non plus que de sa mort prochaine. Décidé au moins à faire un effort pour échapper de leurs mains et se sauver, il s'était tenu prêt à se jeter dehors dès que la porte s'ouvrirait. Il ne la vit pas plutôt ouverte qu'il s'élança, en sortant si brusquement qu'il renversa le capitaine par terre. Mais il n'échappa pas aux autres voleurs qui avaient aussi le sabre à la main et le tuèrent aussitôt. Après avoir vainement cherché comment Cassim avait pu s'introduire dans la grotte, les voleurs coupèrent en 4 morceaux le cadavre de Cassim et mirent ces morceaux près de la porte en dehors de la grotte, 2 d'un côté, 2 de l'autre, pour épouvanter quiconque aurait la hardiesse de faire une pareille entreprise. Puis, laissant la grotte bien fermée, ils remontèrent à cheval et allèrent battre la campagne sur les routes fréquentées par les caravanes pour les attaquer et exercer leurs brigandages accoutumés. La femme de Cassim fut dans une grande inquiétude quand elle vit que la nuit était tombée et que son mari n'était pas revenu. Elle attendit le jour avec angoisse, et avant que le soleil fût levé, elle courut chez Ali Baba. Ali Baba n'attendit pas que sa belle-sœur le pria d'aller voir ce que Cassim était devenu. Il partit immédiatement avec ses 3 ânes, arriva à la grotte, trouva le corps de son frère, l'enveloppa dans 2 morceaux de tapis qu'il chargea sur l'un des ânes, avec du bois pour les cacher. Il chargea les 2 autres ânes de sacs pleins d'or avec du bois par-dessus, comme la première fois, puis il reprit le chemin de la ville. Mais il eut la précaution de s'arrêter à la sortie de la forêt assez de temps pour ne rentrer que de nuit. En arrivant, il ne fit rentrer chez lui que les 2 ânes chargés d'or. Et après avoir laissé à sa femme le soin des décharger et lui avoir fait part en peu de mots de ce qui était arrivé à Cassim, il conduisit l'autre âne chez sa belle-sœur. Ali Baba frappa à la porte qui lui fut ouverte par Morgiane. Cette Morgiane était une esclave adroite, intelligente et qui savait faire réussir les choses les plus difficiles. Quand Ali Baba fut entré dans la cour, il déchargea l'âne du bois et des deux paquets. Il prit Morgiane à part et lui dit « Morgiane, la première chose que je te demande, c'est un secret absolu. Tu vas voir comme il nous est nécessaire, autant à ta maîtresse qu'à moi. Voici le corps de ton maître dans ces deux paquets. Il s'agit de le faire enterrer comme s'il était mort de sa mort naturelle. Fais-moi parler à ta maîtresse et écoute bien ce que je lui dirai. » Morgiane avertit sa maîtresse et Ali Baba, qui la suivait, entra. Il raconta tout à la femme de Cassim, qui se mit d'abord à pleurer à chaudes larmes. Quand elle fut calmée, Ali Baba lui proposa de venir habiter dans sa maison, en réunissant leurs biens, ce qu'elle n'hésita pas à accepter. Pendant ce temps, Morgiane répandait dans tout le voisinage la nouvelle de la mort subite de Cassim. Restait à ensevelir le corps sans éveiller les soupçons. C'est pourquoi le lendemain, au point du jour, elle alla trouver un vieux savetier qui ouvrait sa boutique avant tous les autres. En l'abordant, elle lui mit une pièce d'or dans la main et lui dit « Baba Mustapha, prenez ce qui vous est nécessaire pour coudre et venez tout de suite avec moi, mais à la condition que je vous banderai les yeux quand nous serons à un certain endroit. » À ces paroles, Baba Mustapha fit le difficile. Mais Morgiane lui donna une seconde pièce d'or et il finit par accepter. Baba Mustapha se laissa mener et Morgiane, après lui avoir bandé les yeux avec un mouchoir à l'endroit qu'elle avait dit, le mena chez son maître mort et elle ne lui ôta le mouchoir que dans la chambre où elle avait mis le corps, chaque morceau à sa place. Quand elle lui eut ôté le mouchoir, « Baba Mustapha, dit-elle, c'est pour vous faire coudre les morceaux que voilà que je vous ai amenés. Ne perdez pas de temps et quand vous aurez fini, je vous donnerai une autre pièce d'or. » Quand Baba Mustapha eut terminé, Morgiane lui rebanda les yeux dans la même chambre et après lui avoir donné la troisième pièce d'or qu'elle lui avait promise et lui avoir recommandé le secret, elle le ramena jusqu'à l'endroit où elle lui avait bandé les yeux en l'amenant. Là, après lui avoir encore ôté le mouchoir, elle le laissa retourner chez lui en le suivant des yeux jusqu'à ce qu'elle ne le vit plus afin d'ôter à Baba Mustapha la curiosité de revenir sur ses pas pour l'observer elle-même. Fin de la première partie de l'histoire d'Ali Baba. Retourne cette cassette pour avoir sur la deuxième face la fin de l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs.